Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Je suis Élise Giraudeau et mon premier roman, La vie en turquoise, qui est un roman contemporain engagé, va être publié en avril 2024 aux éditions Les Arts des Mots. Dans ce podcast, vous retrouverez tout mon parcours avec l'écriture, des conseils d'écriture et aussi le journal de bord de mes publications. Mais nous allons aussi parler de santé mentale, de résilience, d'écriture thérapie, de motivation et de bien-être en général. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écouter l'épisode. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. C'est encore moi qui viens mettre les pieds dans les plats à petit four, qui est une expression que m'avait dite une fois Tosca Nouri et que j'avais trouvé trop drôle. Mais du coup, it's me again qui va venir dire tout haut ce que je pense tout bas et qui peut-être, j'espère, vous amènera à la réflexion. Donc déjà, disclaimer, je ne vise personne en particulier, c'est juste, encore une fois, mon propre ressenti. N'hésitez pas à venir m'en parler sur mes réseaux sociaux si cet épisode vous soulève des réactions. Voilà, toujours dans la bienveillance et le respect, s'il vous plaît, puisque c'est exactement ce que je vais faire dans cet épisode. Mais voilà, je serai curieuse d'échanger avec vous sur ça. Comment m'est venue l'idée de cet épisode? Il m'est venu en discutant avec Camilla Morel, qui a aussi un podcast qui s'appelle Écrire pour soi. Et d'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode qui s'appelle Est-ce que le travail paie toujours, notamment en écriture? Enfin, est-ce qu'on peut dire en écriture, le travail paie toujours? Et je crois que son épisode sera pas encore sorti à l'heure où cet épisode va sortir, mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner à son podcast pour aller écouter son épisode. Et en fait, elle a posé cette question et moi, je suis une très grande partisante, oui, partisane, j'ai un doute d'un coup. Bref, en disons que le proverbe, on va dire, le travail paie toujours, c'est vraiment un truc auquel je crois profondément. Et peu importe la discipline. Et du coup, quand elle a demandé sur Instagram de notre avis sur ça, je lui ai fait des podcasts entiers sur ce truc du « le travail paie toujours ». Et donc du coup, pour vous dire un petit peu ce que je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, on va arriver au point auquel je veux en venir. Mais du coup, je lui ai dit que pour moi, oui, le travail paie toujours. Et que ben, l'exemple que je prendrai, c'est que c'est par rapport au sport. Parce que du coup, si vous ne le savez pas encore, j'ai commencé le sport le 4 avril 2015. Et je trouve ça assez incroyable de me dire ça parce que mon roman sort le 4 avril 2024. Et je me dis en fait, cette date du 4 avril, elle avait déjà une signification pour moi et j'étais même pas au courant. Bref. Et donc en 2015, quand j'ai commencé le sport, mon but vraiment ultime, donc en fait j'ai pas honte de le dire, j'ai vraiment commencé le sport pour une question esthétique. Les réseaux sociaux commençaient juste la trend d'être une fit girl. Je crois que le mot fit girl existait même pas en fait. Genre vraiment ça commençait tout juste à émerger avec les premiers programmes et tout, enfin voilà. Et moi je me suis vue en photo et je me suis pas aimée. Et du coup je me suis dit bah tiens je vais me mettre à faire du sport. Et après je me suis inscrite sur Instagram. Mais vraiment le but premier c'était pour me sentir bien dans ma peau. Et mon objectif vraiment ultime c'était de perdre mes bourrelets en fait de ventre. Et d'avoir mais je précise quand même c'était d'avoir un ventre plat, sec, avec des abdos saillants. Ce qui n'est pas du tout dans ma morphologie. Mais je ne le savais pas encore, parce qu'à l'époque, voilà, je faisais pas du tout de sport, donc en fait, je ne savais pas que pour arriver à ce résultat, il faudrait en fait que je ne mange que de l'eau tout le temps, en fait. A contrario de certaines copines, qui sont par exemple à la salle avec moi, qui ne font pas d'efforts particuliers, et qui ont le ventre très sec avec des abdos saillants, parce que c'est leur morphologie, c'est comme ça qu'elles sont. Évidemment que si peut-être elles ne faisaient pas de sport, ils seraient un petit peu plus voilés, etc. Mais ça reste quand même leur physique, en fait, tout simplement. Genre, elles stockent le gras ailleurs et moi, je le stocke sur le ventre. Voilà, bref, c'est un constat. Et donc, bref, c'était mon objectif. Et en fait, quand je regarde 9 ans plus tard, finalement, je me dis, en fait, oui, le travail a payé. Je suis arrivée à mon objectif. Mais en fait, je suis satisfaite de ce travail que j'ai effectué, même si l'objectif auquel je suis n'est pas du tout l'objectif de départ. Je m'explique, c'est-à-dire que mon objectif de départ, c'était de finalement de me sentir bien dans mon corps, et pour ça, je pensais qu'il fallait que j'aie un ventre sec avec des abdos saillants. 9 ans plus tard, donc on va dire 7 ans plus tard, parce que ça fait à peu près 2-3 ans que je me sens bien dans ma peau, mais bref, on va dire 9 ans plus tard, je me sens bien dans ma peau, j'aime ma silhouette, mais surtout, donc on peut dire que j'ai atteint l'objectif, mais je n'ai pas le ventre sec avec des abdos saillants. J'ai le ventre plat, bref, voilà, enfin, j'ai une silhouette qui me plaît, même si, voilà, j'aime manger, donc du coup, je ne vais pas du tout avoir un régime strict, donc ben oui, j'ai du gras, etc., mais je m'en fous, en fait, j'aime ma silhouette comme elle est, j'ai aucune envie de la changer, et même si je prends du poids, voilà, tant que j'aime ma silhouette et que mon image dans le miroir me plaît, je ne vais pas changer quoi que ce soit, enfin, de toute façon, la flemme, vu les TCA que j'ai eu, flemme d'avoir des problèmes avec la nourriture à nouveau, mais bref, tout ça pour dire que le travail a payé. Donc le travail, comment au niveau du sport, c'était faire du sport 4 à 5 fois par semaine. Au début, une demi-heure. Maintenant, je peux enchaîner des séances de 2 heures parce que j'ai trouvé autre chose dans le sport. Finalement, en fait, ça a dépassé mes espérances de me mettre au sport. C'est plus du tout une question de physique, c'est une question de performance, une question de fierté, etc. Mais bref, je suis arrivée à mon objectif, le travail a payé. Et quand j'ai dit ça, du coup, en fait, Camilla m'a mis face à quelque chose. Elle m'a dit, est-ce que, en fait, les gens qui disent le travail paie toujours, ce ne serait pas corrélé avec le fait de dire que les personnes qui réussissent sont toujours celles qui n'ont jamais abandonné. Et ça, je trouve que c'est aussi vrai. Parce que, finalement, effectivement, les personnes qui réussissent sont celles qui n'ont pas abandonné. Mais du coup, ce que je voulais... Enfin, bref. Et après, elle m'a fait le parallèle avec le fait que, voilà, le sport et l'écriture, ça pouvait pas tout à fait être mis en corrélation. Et moi, je trouve que si. Parce que, effectivement, quand on envoie son manuscrit... Enfin, en écriture, il y a plein de paramètres qui ne dépendent pas de nous, surtout si on veut être édité en maison d'édition. Et elle m'a dit, du coup, oui, quand on envoie notre manuscrit en soumission, c'est nébuleux, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Et en fait, finalement, avec le sport, c'est pareil. Ma morphologie, je veux dire, j'ai aucun pouvoir dessus. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, si je voulais avoir en fait la silhouette à laquelle je rêvais de base, il faudrait que je sois en très mauvaise santé parce que j'aurais besoin d'un taux de masse grasse très très bas. Et ben du coup, ça c'est un truc sur lequel je n'ai pas la main. Hein, genre comment je suis née et mes gènes et où je stocke mon gras, ce n'est pas moi qui décide. Et finalement, les soumissions, c'est pareil. Ce n'est pas nous qui décidons. Et en fait, du coup, ça pourrait peut-être faire en sorte que si jamais on a toujours des noms en maison d'édition, ben en fait, on n'arrivera jamais à notre objectif. Mais moi, là où je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, je pense, et comme avec le sport, je peux dire aujourd'hui, le travail a payé, je suis arrivée à mes objectifs, mais en fait, mes objectifs ne sont pas du tout ceux de départ. Et en fait, aujourd'hui, en écriture, donc disclaimer, effectivement, c'est facile, entre guillemets, de dire ça pour moi, puisque je suis publiée. Mais là où je veux en venir encore une fois, c'est que si on reprend mes objectifs de base quand je me suis remise à l'écriture en 2021, c'était quoi? C'était d'écrire un roman fantasy et n'écrire que de l'imaginaire et être publiée dans une grande maison d'édition parce que c'est les premiers noms que j'ai connus quand je me suis remise à écrire et voire même que je connaissais déjà de mon enfance. Donc on va citer Hachette Roman, on va citer Robert Laffont, on va citer Albin Michel, on va citer Gallimard, on va citer Flammarion... Voilà, mais je n'avais aucune connaissance de la ligne édito de ces maisons d'édition. Mais du coup, voilà, on va dire que c'est les grands noms que j'avais. Voilà, donc ça, c'était mon objectif de base. Et je voulais aussi que ma sœur guérisse. Je le rajoute parce que, du coup, mon écriture est intimement liée avec la situation de ma petite sœur. 3 ans plus tard, pour moi, j'ai atteint mes objectifs. Et pourtant, je suis publiée dans une maison d'édition qu'on peut considérer petite à moyenne, mais bon, qui n'a pas 2 ans, donc on va dire une petite maison d'édition, avec un roman que je n'aurais jamais voulu écrire, Et pourtant, je suis vraiment fière de moi parce que je sais que ma petite sœur est fière de moi de là où elle me regarde. Et en fait, je pense que on peut vraiment dire que le travail paie pour atteindre ses objectifs, mais que ses objectifs peuvent changer. Nos objectifs peuvent changer. Et en fait, c'est pas parce qu'on a changé d'objectif en cours de route qu'on peut pas dire « Ouais, le travail a payé, je suis fière de moi, j'ai atteint mes objectifs. » Parce que si jamais votre goal au départ, c'est d'être publié, on va dire, dans un grand nom de l'édition, finalement que vous changez, que votre objectif d'être publié dans telle maison d'édition qui est plus petite, puis finalement que vous avez encore des refus et que vous décidez de vous auto-éditer, genre sans mauvais jugement sur l'auto-édition, mais on va y revenir, et que vous vous auto-éditez et que ça marche du tonnerre, bah pourquoi vous pourriez pas dire que le travail a payé, que vous avez atteint vos objectifs? C'est parce que votre objectif, genre 10 ans après, comme moi avec le sport, c'est plus le même que celui quand vous avez commencé à reprendre l'écriture, que vous pouvez pas dire que le travail a payé et que vous avez pas atteint vos objectifs. Je veux dire, il faut s'obstiner. Moi, je parle de moi, parce que, bah, voilà, on est sur mon podcast, c'est pas du tout égocentrique ce que je veux dire, même si je dois l'être un petit peu quand même pour avoir un podcast où je parle de moi. Mais, genre, après le décès de ma petite sœur, j'aurais eu toutes les raisons du monde, et je m'en serais même pas voulu, en fait, de tout arrêter. Et finalement, ben, j'ai pas abandonné. Aujourd'hui, je vais être publiée. J'ai tenu la promesse à ma petite sœur et je vais avoir d'autres romans publiés. Et je suis intimement persuadée, en tout cas, je l'espère, que ce n'est que le début de ma carrière d'autrice. Et du coup, je suis persuadée que cette phrase de travail paie est reliée à l'adage que les gens qui réussissent sont des personnes qui n'ont pas abandonné. Et franchement, je suis vraiment très très heureuse de là où je suis aujourd'hui. Sur le plan de l'écriture, franchement, je n'aurais pas pu rêver mieux et je ne changerais de maison d'édition ni de situation pour rien au monde. Vraiment, je... voilà. Et là où je voulais en venir, c'est que je pense qu'il faut vraiment changer notre vision de l'édition. Et c'est de là d'où vient le titre de ce podcast. Parce que, donc là, disclaimer, je suis persuadée, bon, je pense pas que ces gens qui pensent comme ça passent par là et écoutent mon épisode, mais je suis persuadée que certaines personnes vont penser que je dis ça et que je tiens ce discours parce que je suis publiée dans une petite maison d'édition et que j'ai été refusée par des grands noms d'édition, parce que oui, j'ai été refusée chez Hachette Roman, j'ai été refusée chez Flammarion, j'ai été refusée chez Slalom, j'ai été... Même, c'est même pas que j'ai été refusée, c'est que Hugo Roman ne m'a jamais répondu. Qui d'autre ne m'a jamais répondu? Les éditions Addictive ne m'ont jamais répondu. Les éditions Harlequin non plus. Qui ne m'a jamais répondu d'autres encore? Bon bref, genre, j'en passe des meilleurs, genre que ce soit pour tous mes textes. Donc bah, La vie en turquoise, Bad Cliché à New York City, Daiquiri... que j'ai coécrit avec Manon Lécuyer, vraiment, voilà, j'ai eu des refus, ou des absences de réponse, comme tout le monde, et peut-être, oui, que je tiens ce discours parce que j'ai été refusée dans des grandes maisons d'édition, mais vraiment, je suis très heureuse, finalement, et non pas que je n'aime pas ces maisons d'édition, genre, en fait, je suis persuadée que j'aurais pu, par exemple, un jour être publiée chez Hachette Roman si j'avais... que je le pourrais encore si je proposais certains textes, mais... Genre vraiment, les refus que j'ai eus, ils étaient tout à fait justifiés. Et c'est juste que la collaboration, ben, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon texte pour aller là-bas. Enfin, les bons textes, parce que j'en ai soumis plusieurs. Et voilà. Mais vraiment, je ne regrette vraiment rien par rapport à ça, parce que ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui dans l'écriture. Et avec ma maison d'édition Les Arts des Mots, comme je le fais que le répéter, ça se passe extrêmement bien. Et je sais très bien qu'il y a des choses, typiquement... le plus important, ça reste le texte, mais ce bel objet livre que j'ai qui est collector relié en hardback, etc., que ma maison d'édition a fait parce que les éditrices sont profondément humaines et ont décidé de faire un bel objet livre pour la promesse que j'ai faite à ma sœur, mais jamais je l'aurais eu dans une plus grande maison d'édition, parce que bah, c'est normal. Ou voilà, et bref, tout ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment très heureuse de que ça m'ait menée jusqu'ici, mais que, genre, je sais très bien qu'il y a des gens qui me regardent en mode... mais genre en mode, ouais, non, mais tu dis ça de toute façon parce que t'as pas été publiée dans une grande maison d'édition. Mais en fait, je suis vraiment contente d'avoir cette mesure-là, et de me dire que, genre, toutes mes copines, qu'elles soient publiées ou non, déjà, et qu'elles soient publiées dans une grande maison d'édition ou dans une plus petite maison d'édition, je les considère au même niveau. Genre, toutes mes copines, genre même au sein des patates filantes, je me dis pas « Ah, il y en a une plus grande que l'autre parce qu'elle, elle est publiée, elle est pas publiée, elle est en AE, moi je suis comme... » Non, pas du tout. Et genre mes super copines d'écriture, que ce soit Marie de Parole de Plume, Nell Pfeiffer, Manon Lécuyer, Aurore Vasselin, Morgane, Chloé, enfin bref, toutes les personnes que j'aime trop sur les réseaux qui sont publiées dans des maisons d'édition ou en auto-édition, mais je les considère égal à égal. Et franchement, je suis très heureuse de ne pas avoir la mentalité du « oui, moi je suis au-dessus, je vous regarde comme ça parce que je suis dans une grande maison d'édition ». Absolument pas. Et du coup, j'aimerais qu'on change cette vision d'édition de grand nom DME, puis en dessous moyenne ME, puis en dessous petite ME, puis en dessous les auto-édités. Vraiment, c'est... ça m'agace. Voilà, j'adore, je sais que j'ai cette expression, je la sors tout le temps, mais vraiment... ça m'agace. Et du coup, là, je m'adresse à toutes mes copines, peu importe dans quelle maison d'édition vous êtes édité ou si vous êtes en auto-édition, ce que je voudrais dire, c'est prenez votre putain de place. Parce que je vois trop et j'entends trop et ce sous-entendu qu'il y a tout le temps dans les paroles des gens qui ne sont pas publiés dans les grands noms des maisons d'édition, qui est « oui, je suis auto publié, mais je suis publié chez machin ». Pourquoi on ne dirait pas « oui, je suis publié et je suis auto-édité » ou « oui, je suis publié et je suis édité dans telle maison d'édition ». Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait se rabaisser parce qu'on n'est pas publié dans une grande maison d'édition ? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, chacun... prend sa place. Et en plus, déjà, moi, je trouve ça dommage que les maisons d'édition s'entraident pas plus. Genre, vraiment, ça m'agace de... je sais pas pourquoi les grandes maisons d'édition, elles donneraient pas la main aux plus petites maisons d'édition pour s'élever. Voilà. Mais du coup, c'est à nous, les auteuristes, de changer ça, en tout cas au sein de la communauté des auteuristes. Pourquoi est-ce que les grandes auteuristes qui sont même celles qui, je ne sais plus comment elles s'appellent, honte à moi, mais la grande prêtresse de l'auto-édition, genre, voilà, elle prend sa place et il n'y a personne qui va remettre en doute le fait que c'est une superbe autrice. Du coup, prenez votre place et on n'a pas besoin de se tirer dans les pattes, on n'a pas besoin de se regarder de haut ou de bas et genre vraiment toutes les étoiles brillent dans le ciel. Alors je sais que toutes les étoiles ne brillent pas avec la même intensité parce qu'on me l'a dit la dernière fois, mais on va dire que si, et j'en suis persuadée. Enfin en tout cas, toutes les étoiles du premier plan, on va dire, brillent de la même intensité. Et on est toutes et tous, on est tous des étoiles du premier plan qui brillent de la même façon. Et je pense qu'il faut prendre sa place parce que là... aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des opportunités que j'ai et que je vais avoir qui sont grâce à ma maison d'édition. Il y a des opportunités que je vais avoir et que j'ai eues qui sont grâce à moi. Et je pense qu'on soit en grande ME, en petite ME, en moyenne ME, en auto-édition, c'est à nous aujourd'hui de nous bouger les fesses. Et avec les réseaux sociaux, franchement, les frontières, elles sont vraiment gommées. Parce que je veux bien qu'il y a quelques temps... forcément, on avait plus de visibilité si on était dans une grande maison d'édition que dans une petite maison d'édition au niveau de la communication. Forcément, si on parle, je sais pas, d'affiches ou quoi que ce soit, enfin, effectivement. Mais aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, on peut tous prendre notre place, en fait. On peut tous être au même niveau et si on se donne les moyens... Alors, je suis d'accord, c'est pas... enfin, il faut le vouloir déjà, parce que voilà. Mais je veux dire, si on a l'envie de le faire, on peut tous avoir une super communication. Franchement, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est chronophage. Effectivement, c'est pas le rôle d'un ou une auteurice. Mais si vous en avez envie et que vous avez l'énergie pour, et le temps aussi, voilà, grande maison d'édition, petite maison d'édition, il y a moyen de prendre sa place et de faire énormément de contenu et de bien vendre son roman. n'y a pas besoin d'attendre, en fait. Enfin, déjà, personnellement, je pense que ça, c'est dans mon caractère. J'ai pas envie d'attendre après qui que ce soit, même après ma maison d'édition. Même si j'étais dans une grande maison d'édition, je pense que j'agirais plus comme Margot de Seine, qui fait énormément de com, même si elle est chez Bragelonne. Genre, je trouve ça super bien, en fait, toute la com qu'elle fait, même si elle est dans une grande ME. Et du coup, je suis, voilà, genre, j'attendrai après personne. Et c'est ce que je fais. En fait, j'attends après personne. Quand ma maison d'édition, elle a des opportunités, ben forcément, elle me donne les opportunités et le coup de boost. Mais en attendant, je fais mon truc. Et je pense que grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, grâce à l'informatique tout simplement, il y a vraiment moyen de prendre sa place et de faire ses trucs. Donc, arrêtez de vous saboter, arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de dire... voilà, si vous êtes même dans une grande maison d'édition et que vous n'avez pas la com que vous méritez, parce que ben, on sait très bien qu'il y a ceux qui sont en jeu et ceux qui ne le sont pas, il y a moyen, voilà, tout le monde va prendre sa place et il y a vraiment la possibilité que tout le monde prenne sa place. Voilà, bref, c'était le mot de la fin. Je vais finir par du coup citer le titre de ce podcast, mais non. Personne n'est un ou une autrice ratée parce qu'il ou elle n'est pas en grande maison d'édition. Jamais. Et vous ne serez pas non plus un ou une autrice ratée si vous êtes en grande maison d'édition. Voilà, il n'y a pas en fait à mettre sur des étagères différentes. Bref, j'espère que tout le monde a compris mon point. Aimons-nous les uns les autres. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je viens de postillonner sur mon micro, c'est génial. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez, cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice, ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail elise.giraudot.contact@gmail.com. À bientôt!